Heisenberg.
Vous aviez demandé à quel rabbin ?
Heisenberg. De venir, s'il acceptait. C'était très touchant. J'étais le seul prêtre. Et en arrivant, elle a dit, c'est la première fois que je parle à des chrétiens. Donc, vous voyez, c'est déjà vieux. Et j'ai compris là combien que face au problème d'Israël, catholiques et protestants étaient un dans le Christ. C'était très impressionnant, j'avais jamais ressenti ça à ce point. Et je voyais combien le problème de l'œcuménisme, dans ce qu'il a de radical, ne peut être vu que justement que dans ce grand mystère de l'économie divine. Si nous touchons des problèmes ultimes et des luttes ultimes, comme le dit l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga se tiennent. Nous devons donc revenir à ce qu'il y a de premier, de fondamental. Nous invoquons constamment Abraham comme notre père. Est-ce que nous vivons de la paternité d'Abraham ? Et est-ce que nous avons ce regard d'Abraham sur son peuple ? Cet amour des prophètes, cet amour de Jean, cet amour de Marie. Le peuple d'Israël est assoiffé d'amour. Au point de vue de l'intelligence, je crois que il sait qu'il est intelligent. Et c'est vrai. C'est pas là où il est assoiffé. Il est assoiffé d'amour. Et la grande tentation permanente pour le peuple d'Israël, c'est de rester dans la Torah, dans la loi, dans la justice. C'est la tentation permanente. Nous devons le comprendre. Il y a un passage dans l'Écriture que je voudrais développer de plus en plus et qui me semble quelque chose d'extraordinaire, comme lumière pour l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis du peuple d'Israël. C'est peut-être le passage le plus émouvant de toute l'Écriture, à la fin de la Genèse. Quand on regarde l'histoire de Joseph, et quand on voit comment, grâce à la famine, c'est important ça, les fils, les frères de Joseph, les fils du vieux Jacob, viennent en Égypte chercher de la farine, du froment. Joseph les reconnaît et eux ne reconnaissent pas Joseph. Et on voit comment Joseph, sous la conduite de l'Esprit-Saint, va sonder leur cœur. Il les interroge. Il y a quelqu'un porte le plus dans son cœur, c'est le petit dernier, le Benjamin. Et puis, son père. Et Joseph ne peut pas aller les voir. Il ne peut que les attirer vers lui. Mais il ne veut pas oublier le passé. ils s'offrent eux-mêmes à la place du Benjamin. Et c'est quand Joseph a vu qu'il ne recommencerait pas le même geste que pour lui, qu'il se dévoile. Eh bien, je crois que là, il y a quelque chose d'extraordinairement important pour nous, comme préfiguration de toute l'histoire du peuple d'Israël et la place du Christ et de l'Église. Joseph, c'est une préfiguration de Jésus dans le gouvernement divin. On voit que c'est le mystère de la paternité qui remet dans le cœur des frères de Joseph ce qu'il y a de plus vrai. Autrement dit, s'ils ont vendu Joseph aux Égyptiens, s'ils l'avaient mis dans le puits, c'est parce qu'ils n'avaient plus le sens suffisamment aigu de leur filiation à l'égard du Père. En vendant Joseph, ils tuaient leur Père. Ils s'en étaient pas aperçus. Il a fallu tout ce temps pour qu'ils comprennent qu'ils ne pouvaient pas faire la même chose avec le Benjamin. Ils auraient tué leur Père. Et leur Père serait mort à cause de ça. C'est donc leur lien avec le Père leur a donné cette attitude de vérité. Et à partir de là, Joseph a pu se dévoiler. Pour moi, c'est extrêmement parlant, cela. C'est pas de revenir sur le procès de Jésus. C'est impossible, on peut jamais revenir en arrière. C'est comme avec les protestants. L'unité ne se fait pas revenir en arrière. Les discussions théologiques se font revenir en arrière. C'est pas du tout la tactique de Dieu, ça. Si Dieu a permis certaines séparations, si Dieu a permis certaines divisions, c'est pour une unité plus profonde, et il faut découvrir quelle est cette unité. Et avec le peuple d'Israël, l'unité, c'est auprès du Père. Et alors là, l'évangile de Jean, je crois, et celui qui nous montre le plus ce lien avec la paternité. Quand on s'adresse à un Israélite, à un Juif, et qu'on veut être proche de lui, c'est le mystère de la paternité de Dieu Père qui nous permet d'avoir un langage vrai et de réveiller en lui ce qu'il y a de plus vrai. C'est le Père qui va faire l'unité. La division s'est faite à propos de Jésus. C'est pas en revenant sur le procès de Jésus, mais en allant plus loin. Le mystère de la finalité. Jésus est venu pour nous apprendre le Père, pour nous apprendre à regarder le Père. Et je crois que c'est cela que nous devons faire aujourd'hui. Vous voyez, nous retrouvons la vraie finalité au-delà de certaines attitudes, certaines manières particulières où les oppositions se sont faites. Il est difficile de préciser plus, mais je crois que là, on a une piste vitale qui va très loin. Personnellement, je suis très frappé de cela.
Oui, une dernière question dont se peut amener ce chapitre de la charité fraternelle, qui est l'aspect positif de tout ça. Il y a une phrase de l'Écriture qui est quand même très forte, dans Saint Jean, je crois, qui dit « Tous vous reconnaîtront à mes disciples à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. »
Exactement.
Et au fond, est-ce que c'est pas le grand enjeu pour tous les croyants aujourd'hui,
vous voyez, la charité fraternelle,
face à un monde qui ne croit plus
exactement.
En Dieu ?
La charité fraternelle n'est vivable que quand il y a un même Père. C'est ça, la famille.
Et au fond, est-ce que l'athéisme ne perdure pas, même s'il a été induit par des erreurs dans l'intelligence, ne perdure pas parce que tous les croyants, qu'ils soient juifs, protestants, catholiques, etc., ne savent pas donner ce témoignage,
tout à fait, ce témoignage
d'amour fraternel, d'unité, qui ferait peut-être qu'en
fait, nous avons le même Père.
Exactement.
Quelques instants, tout peut s'éclairer. Et tout peut s'éclairer par ce mystère de la charité fraternelle. Au-delà de toutes les discussions. Et si on ne met pas l'amour, au-delà de l'intelligence, on raisonne les discussions. Bah, personnellement, j'ai voulu faire la petite expérience à Fribourg. La petite expérience œcuménique. J'allais régulièrement à Lausanne avec quelques pasteurs et quelques théologiens. Bon, petite prière au début, c'est très très bien. Puis, on discutait. Mais on discutait, chacun avec ses armes. Témoignage de Luther, témoignage de Calvin, témoignage de Thomas d'Aquin, témoignage... On peut discuter sans s'étendre. On terminait par la prière. C'était très bien. Mais on repartait chacun avec ses mêmes convictions. Ce n'est pas là-dessus qu'on pourra. On doit maintenir la vérité. Cette recherche de vérité, c'est bien évident. Mais quand il s'agit de frères séparés, et quand il s'agit fondamentalement à l'égard du peuple d'Israël, où la division est beaucoup plus radicale, puisque c'est à l'égard de Jésus Sauveur, regardons le paraclet et regardons l'expérience la plus profonde que le paraclet met dans notre cœur. Il nous fait dire Abba Pater. Et c'est cette expérience de la paternité qui sera source d'une charité fraternelle, mais débordante. Au-delà de toutes les disputes, il y aura cet amour, et c'est cet amour qui permettra que les barrières tombent, comme les murs de Jéricho, alors que les discussions à l'infini perdurent les oppositions.
Une précision par rapport au peuple d'Israël.
C'est ça. Comprenons bien que ce qui nous est donné dans l'Écriture pourrait être interprété d'une manière qui condamnerait les frères de Joseph. Et donc, ce serait cette condamnation globale à l'égard du peuple d'Israël qui, hélas, a été constamment vu. Il faut au contraire comprendre que nous devons regarder cela comme une lumière que Dieu nous fait comprendre, nous donne pour dépasser ce point de vue. Parce que Jésus ne condamne pas son peuple. Joseph ne condamne pas ses frères. Il veut au contraire retrouver une alliance fraternelle, plénière et totale, plus grande que celle d'avant, l'épreuve ayant permis qu'il puisse être plus proche d'eux et avoir vis-à-vis d'eux un accueil unique. Cet accueil d'amour. Et il nous fait découvrir que cet accueil, on ne pourra le retrouver que grâce à ce lien caché qui fait l'unité entre Israël et les chrétiens, le mystère de la paternité. Tout commence par le Père et tout s'achève dans le Père. Et c'est ce lien avec le Père, ce lien de filiation avec le Père, qui permet de mettre en pleine lumière cette unité profonde qui existe entre Israël et l'Église. C'est qu'il y a le même Père. Et parce qu'il y a le même Père, on se retrouve dans cette unité de charité fraternelle. Si il n'y a pas de fondement à la charité fraternelle risquera de rester uniquement une sorte de bienveillance, une sorte de ne voit pas ce qu'il y a de profond dans l'économie divine, dans le plan de Dieu. Le peuple d'Israël reste lié à Dieu. Et Dieu est son Père. Et les chrétiens doivent reconnaître cela et essayer de le rejoindre là où ce lien de charité, ce lien d'amour dans l'adoration est si fort. Et se retrouver là, c'est redécouvrir cette paternité de Dieu qui est commune. Et c'est bien cette paternité qui est tout le sens profond du message du Christ et qui dans Saint Jean prend toute sa valeur. Il ne s'agit donc pas d'interpréter ce passage de l'Écriture si émouvant comme une condamnation du peuple d'Israël, mais au contraire, voir cette grâce première qui demeure. Et cette grâce première qui demeure, c'est ce lien de filiation à l'égard du Père. Tous ces textes extraordinaires qu'on trouve chez les prophètes, cette tendresse de Dieu, Dieu est lent à la colère, Dieu aime son peuple, il est le Père et l'Époux. Et on voit combien la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple demeure, puisque même si il s'égare, Dieu reste fidèle. Et c'est cette fidélité d'amour de Dieu à l'égard de son peuple que le chrétien doit découvrir pour regarder le peuple d'Israël dans la lumière de Dieu. Puisque la charité fraternelle consiste à se regarder dans la lumière de Dieu. Une charité fraternelle qui est simplement une rencontre pour se connaître et se reconnaître, c'est pas la vraie charité fraternelle. Parce que la charité fraternelle, elle vient de Dieu. Et elle nous permet d'avoir le regard de Dieu sur nous. C'est pour ça que j'ai pris ce texte, pour avoir dans l'Écriture même et dans la vision même de Dieu ce fondement commun qui nous unit les uns aux autres et qui permet l'exercice divin de la charité fraternelle.
D'accord, je comprends beaucoup. Ah non, nous allons faire maintenant, oui c'est bon, on entend bien, un retour en arrière.
Le micro est là. Je me dis on entend bien effectivement.
Ici pour qu'on reprendra le texte, c'est un passage qu'on mettra à la fin de la deuxième partie sur la théologie. Lorsque je vous ai posé la question, c'est la question 65, sur quel est le renouveau de la théologie aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut voir quelles sont les différentes branches de la théologie. Et je crois qu'il faudrait donc que vous repartiez par le point de vue de l'économie, de ce que vous aviez très mentionné très rapidement. Vous avez parlé d'une théologie de l'économie divine. Et puis après, vous pourrez situer la théologie mystique comme ça. Donc la question posée, c'était sous quelle forme il faut faire un renouveau de la théologie aujourd'hui.
Oui, alors est-ce qu'il faut reprendre toutes les formes de la théologie? Parce que pour moi personnellement, il est important dans ce renouveau de la théologie, tel que le demande du reste le Concile en disant une théologie d'économie divine. Cette théologie d'économie divine implique de reprendre une sorte de théologie biblique, je ne dis pas d'exégèse, mais de théologie biblique, voir comment Dieu nous éduque à découvrir le mystère ultime de son don, qui est le don du Fils bien-aimé. Il y a quelque chose de fondamental dans cette théologie biblique, qui est représentée par les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et je crois que ces 11 premiers chapitres de la Genèse jouent un rôle vraiment fondamental, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans la théologie de la première alliance et qui demeure présent pour la théologie de l'alliance nouvelle.
ça que ces 11 premiers chapitres de la Genèse ont quelque chose de particulier. Pourquoi ? Parce que il nous montre l'intention profonde du Dieu créateur. C'est tout le mystère de la création qui nous est montré là. Et qui nous est montré dans deux versions. De fait, il y a dans l'écriture des doublés. Les exégètes essaient de voir les sources différentes. Moi, je crois qu'il faut plutôt regarder la finalité. Si on croit que la Bible est un livre dont l'auteur principal est l'Esprit Saint, s'il y a des textes parallèles, c'est parce qu'au point de vue de la finalité, ces textes nous disent quelque chose de différent. Et je crois que c'est très significatif quand il s'agit de ces deux textes parallèles sur la création. Le premier texte nous montre l'ordre de la sagesse de Dieu dans la création. La première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Est-ce que c'est pas la lumière qui fait l'unité de tout notre monde physique ? Là, saint Thomas et Théard sont d'accord, il y a des chances qu'il y a quelque chose de profond. Et c'est bien ce qui nous est dit en premier lieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Puis ensuite, on voit la création successive ordonnée selon une semaine. Une semaine prise tout à fait symboliquement, mais c'est le symbolisme de l'ordre du temps. Et l'ordre du temps est pour nous l'ordre le plus fondamental. C'est l'ordre premier. Quand on commence à perdre cet ordre du temps, ça prouve quelque chose qui ne va plus très bien. Parce que par rapport au présent, il y a le passé, le futur. Et on classe ça selon une semaine. Et le sixième jour, on voit qu'il y a comme un arrêt, comme une réflexion de Dieu sur lui-même. Faisons l'homme à notre image. Et on assiste au récit de la création de l'homme et de la femme. Où Dieu crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. C'est important de voir que le terme ultime de la création, c'est l'homme et la femme. Ce premier récit, qui est un récit très ordonné, que tous ceux qui sont partisans de l'évolution aiment beaucoup, puisque d'une certaine manière, on nous montre comme une sorte d'évolution de la lumière à Adam. C'est assez impressionnant. Et Adam et Ève sont créés simultanément pour nous montrer que tous les deux sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le second récit est tout à fait différent, d'une autre source. Il a une autre finalité, je crois. Il veut nous montrer la hâte de Dieu. Dieu créateur crée dans une lumière de sagesse et il nous crée par pur amour. Et je crois que le second récit veut nous faire comprendre que Dieu crée l'homme et la femme par pur amour et que toute la création est une œuvre d'amour. La hâte, c'est toujours l'amour. Et on voit que dès qu'il y a de l'argile, c'est-à-dire la terre et de l'eau, on voit le geste de Dieu. Mais le premier récit, c'est la parole. Le second récit, c'est le geste. On voit comment Dieu forme le corps de l'homme. Et dans ce second récit, Dieu crée en premier lieu l'homme. Il façonne son corps comme un potier à partir de l'argile. Adam, terre rouge. Et une fois que son corps est façonné, il y a un souffle de vie par les narines. ces deux aspects, la formation du corps et Dieu qui insuffle l'âme et l'unité, l'homme. Et pour l'homme, Dieu fait un Éden, un jardin merveilleux. Et l'homme n'est pas satisfait de ce jardin. Et là, Dieu réfléchit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et à partir de là, pour l'homme, Dieu crée la femme. En jetant l'homme et en mettant l'homme dans la torpeur. Il ne demande pas conseil à l'homme. C'est lui-même qui veut donner à l'homme une compagne. Alors que tout ce qu'il avait fait précédemment, toute cette variété étonnante d'animaux, de plantes, ne pouvait pas satisfaire l'homme. Il faut lui donner une compagne qui soit son complément, qui soit son achèvement. Et nous voyons là le geste symbolique de Dieu, le geste du chirurgien. Mais un chirurgien qui crée. C'est très intéressant de voir que les analogies par rapport à la création sont des analogies d'ordre artistique. Et ça me semble très significatif. On ne peut s'approcher de la création qu'en prenant les analogies de l'art. Et peut-être qu'on s'est mis dans des pistes fausses quand on a pris le point de vue de la science. La science comme telle ne peut rien nous dire de ce premier moment de la création. Tandis que l'art, qui implique une sorte d'inspiration, est toujours quelque chose de nouveau. Peut nous aider à comprendre ce premier moment de la création. Ce qui est net, c'est que l'Esprit Saint nous donne ces deux grandes analogies, celle de l'ordre de la sagesse et celle de la gratuité de l'amour. Et les deux analogies reposent sur un point de vue artistique, pour nous montrer que le Créateur fait œuvre de sagesse et fait œuvre d'amour et d'amour gratuite. Des deux côtés, on voit que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Mais dans le second récit, il est précisé que la femme est la Benjamine et que l'homme est premier. Alors, si on est attentif à cette loi, en quelque sorte, qui nous est donnée à travers toute l'Écriture, que c'est toujours le Benjamin qui est le plus aimé, je peux dire qu'il y a comme une tendresse particulière de Dieu et un amour particulier de Dieu dans la création de la femme. Elle est la Benjamine. Et c'est à son égard que le Dieu créateur, comme créateur à partir de son amour, va cacher son secret ultime, dernier, dans la création de la femme. C'est l'achèvement de la création. C'est pas seulement l'achèvement de l'homme, mais c'est l'achèvement du chef-d'œuvre de Dieu. Dieu ne s'est pas reposé après avoir créé l'homme. Il ne se repose qu'après avoir créé la femme, ce qui est très significatif. L'artiste se repose après avoir réalisé son chef-d'œuvre. Il y a là quelque chose qui me semble très important à souligner pour toute la théologie de l'homme et de la femme. On peut maintenant se poser la question, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Les pères de l'Église ont été très frappés de ça. Ils ont essayé de comprendre ce que ça signifiait. Si on est attentif au texte de l'Écriture, à travers ce langage symbolique, on voit bien que être créé à l'image de Dieu implique comme trois grandes dimensions. L'homme doit dominer l'univers. L'homme doit connaître cet univers. L'homme doit aimer. Et pour qu'il aime pleinement, Dieu lui donne la femme. Parce que l'homme ne peut pas aimer parfaitement tout ce qui lui est inférieur. On ne peut aimer parfaitement que un bien qui nous transcende et qui par le fait même nous attire. Un bien qui est inférieur à nous est incapable de susciter en nous un amour parfait. Il est surtout incapable de recevoir cet amour parce qu'il est inférieur à nous. Alors, je peux dire que l'image de Dieu implique ces trois dimensions. L'homme est à l'image de Dieu parce qu'il doit dominer l'univers. Toute la théologie de l'homme entend qu'il est le roi de l'univers. Il le domine. Il le domine pour son bien, pour achever l'œuvre de Dieu. C'est aussi très beau de voir ça. Dieu n'a pas voulu que l'univers soit absolument parfait pour que l'homme uniquement l'habite. Comme quand on vous donne une maison absolument achevée et on dit habitez là. On ne l'aime jamais parfaitement. On aime bien une maison où on peut l'achever, la continuer, parce qu'on met sa trace. Et Dieu a voulu que l'univers ne soit pas parfait pour que l'homme puisse l'achever. C'est tout le grand aspect de l'activité artistique. Achever l'œuvre de Dieu. Et c'est le premier commandement. Dominer l'univers. Achever l'univers. Ensuite, la connaissance. L'intelligence. Nommer. Donner à tout sa signification. Et l'homme doit connaître cet univers. Cet univers qui est son milieu. Que Dieu lui met à son service et pour lui permettre de s'épanouir, connaître. Et ensuite, troisième dimension, l'homme est fait pour aimer, et aimer parfaitement. Et c'est pour ça qu'il lui donne Ève, la femme, os de mes os, chair de ma chair. C'est ce que dit immédiatement Adam quand Dieu lui présente Ève. Ce qui montre la joie de son cœur. Et les pères de l'Église ont souligné que la femme était créée à partir de l'homme, à partir de la côte de l'homme. Langage symbolique pour nos frères comprendre que la femme n'est ni la servante de l'homme, ni celle qui doit compléter d'une certaine manière son intelligence, mais qu'elle est avant tout donnée à l'homme pour apprendre à l'homme à aimer. Elle est celle qui complète toute l'affectivité de l'homme, l'affectivité spirituelle et l'affectivité sensible. Elle est donnée avant tout pour cela, pour que ce soit à travers elle que l'homme puisse connaître cet épanouissement ultime et dernier, celui de son cœur. Si je veux comprendre parfaitement l'ordre qui existe dans ces trois dimensions, je dois regarder ce qui se passe après ce premier moment de la création. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que dès que Dieu se repose, c'est symbolique évidemment, Dieu n'a pas besoin de se reposer puisque la création n'est pas un travail pour Dieu. Ce n'est pas un travail laborieux. C'est une réalisation à partir de sa contemplation. Mais pour que nous comprenions que Dieu laisse l'homme libre, donc il le laisse. Et qu'est-ce qui nous est montré comme première initiative de l'homme et de la femme? C'est ce premier dialogue de la femme avec le serpent. Comme si le dialogue de la femme avec l'homme n'était pas suffisant. C'est très curieux. Il y a une petite faille. La femme a la possibilité d'exercer son intelligence en dehors de l'amour, en dehors de cet amour à l'égard de l'homme que Dieu lui a donné. Elle se laisse prendre par sa curiosité. On l'interroge. Et il y a le symbolisme de ce troisième personnage dont on n'a pas parlé, mais qu'on comprendra vite à travers l'écriture ce qu'il est. La ruse du serpent. Ce troisième personnage qui tout de suite va auprès de la femme et l'interroge. Il y en a la première tentation. Je crois qu'il faudrait, aujourd'hui, ça fait partie de ce renouveau du reste, et ça fait partie de la théologie de l'économie divine, faire la théologie des tentations. Ça m'impressionne beaucoup, ça. Et la théologie des tentations nous donnerait une vision extrêmement profonde de la psychologie. Mais non pas une psychologie à rasmotte, horizontale, mais une psychologie qui va beaucoup plus loin. Au fond, la femme intrigue le serpent. Elle semble intriguer moins l'homme que le serpent. Et il veut savoir ce qu'il y a en elle, ses désirs profonds. Et il veut la mettre dans une orientation qui ne soit plus sa vraie finalité. Je crois que la tentation, quand elle vient du démon, c'est pas la même chose que l'épreuve. On y reviendra là-dessus. Mais la tentation, c'est le démon qui veut lui-même diriger la femme, l'orienter, faire que la femme, à la place d'être docile à l'esprit de Dieu qui est en elle, la femme aille dans des sentiers qui deviennent dangereux. Curiosité qui la conduit vers des pâturages dangereux. Ce qui est sûr, c'est que nous assistons là à cette première tentation par l'interrogation. Interroger quelqu'un, c'est la manière la plus humble de l'enseigner. Et le démon prend cette astuce, pas parce qu'il est humble, mais parce qu'il veut pénétrer dans son cœur et savoir qui elle est. Et le démon, en l'interrogeant, l'interroge tout de suite sur ce qui, en elle, est plus vénérable. C'est Dieu qui exerce son autorité sur la femme en lui donnant une défense. Tu ne mangeras pas de tel arbre. Et le démon universalise tout de suite. Est-ce que c'est vrai que tu ne peux pas manger du fruit des arbres? Et la femme réplique tout de suite, non, c'est pas vrai. C'est pas cela. Il y a un seul arbre. Elle livre le secret, le lien avec Dieu, dans l'obéissance. C'est très curieux que c'est par rapport à l'obéissance, tout de suite, que le démon va pénétrer dans le cœur de la femme. Parce que elle va livrer au démon ce secret de cette première petite communauté. Et une fois qu'elle a livré ce secret, elle n'a plus aucune force. Le démon va pénétrer et va lui donner la première herméneutique de la parole de Dieu. Le démon est le premier qui donne cette herméneutique de la parole de Dieu. Et cette herméneutique de la parole de Dieu, c'est de montrer que la femme n'a rien compris du tout dans sa foi. Elle est naïve. C'est pas comme ça du tout qu'on doit interpréter la parole de Dieu. Elle doit mettre son intelligence au service de la parole de Dieu pour essayer de comprendre que Dieu, en réalité, quelque chose d'extrêmement intéressant et important à voir. La manière dont le démon va s'introduire dans cette première communauté. Et la manière dont la femme, ayant livré le secret, a perdu toute sa force. Il y a un petit passage dans Sartre qui est très intéressant et qui éclaire ça. Quand Sartre, dans Mort sans sépulture, nous dit que lorsqu'on prenait, pendant la dernière guerre, ceux qui étaient dans le maquis et qu'on les torturait pour qu'ils livrent leurs secrets sur tous ceux qui étaient liés dans la résistance, dès qu'ils avaient livré leurs secrets, ils perdaient toute force de résistance. Le secret noue et fortifie. C'est un nœud affectif, un secret. Et ça nous lie à la personne qui nous a confié ce secret. Et dès qu'on livre un secret, d'abord, c'est une trahison. Livrer le secret de l'ami, c'est une trahison. Et dès qu'on trahit, on perd toute force affective. On n'a plus aucune capacité de cheminer seul. Alors on se met immédiatement au service de celui à qui on a livré le secret. On voit donc que cette première faute nous fait comprendre que l'orgueil, ce désir d'autonomie, de se conduire soi-même, connaître le bien et le mal à sa propre mesure, fait que l'intelligence n'est plus au service de l'amour. Je crois que c'est extrêmement significatif. Le démon ne peut pas créer un nouveau chef-d'œuvre, mais le démon peut enlever l'ordre de la sagesse de Dieu, qui est au plus intime de l'image de Dieu. Et de faire que l'intelligence, à la place d'être au service de l'amour, l'intelligence se replie sur elle-même pour que l'homme acquiert une autonomie parfaite. Première faute. La seconde faute est comme liée à la première. Ce ne sera plus une faute d'orgueil, ce sera une faute de jalousie et de jalousie religieuse. C'est Cain à l'égard d'Abel. Et cette jalousie va conduire au fratricide. Cain va tuer Abel par jalousie. Il ne peut pas supporter que Abel, le Benjamin, soit relié, semble relié plus immédiatement à Dieu que lui. Abel semble, dans le sacrifice qu'il réalise, être entièrement saisi par la présence de Dieu. Alors que Cain, lui, fait les mêmes gestes, mais d'une manière toute matérielle. Il louche un œil sur Dieu, un œil sur Abel. C'est à l'intérieur même de cette liturgie qui n'est plus faite comme une liturgie qui jaillit du cœur, mais qui est une liturgie faite d'une manière extérieure, que va s'introduire la division entre les frères par la jalousie. Une jalousie religieuse et fraternelle qui conduit à l'homicide. Troisième faute, l'iniquité généralisée. L'homme n'a plus aucun respect vis-à-vis de l'homme, parce qu'il ne regarde plus dans l'homme l'image de Dieu. Et cette iniquité généralisée appelle une punition généralisée. Le déluge. Dieu a un dégoût de l'homme. Le démon est arrivé à faire que Dieu a un dégoût de l'homme. Parce que l'homme ne s'occupe plus du tout de ce qui est en lui de plus grand et de plus digne. Il n'y a plus qu'une rivalité et une iniquité généralisée. Le déluge. Mais tout est repris avec Noé. Avec l'arche d'alliance que renoué et comme un nouvel Adam. C'est une reprise de toute l'humanité à travers Noé. Et à la fin du déluge, tout est repris par lui. Alliance de miséricorde avec Dieu. Mais les descendants de Noé, très très vite, vont se diviser. Les uns auront le respect de leur père, même au moment où leur père, dans une expérience malheureuse, s'enivre. C'est la première fois où dans l'Écriture on parle du vin. Et Noé s'enivre, n'a pas l'expérience, donc il n'est pas coupable. Et les fils de Noé, les uns profitent de l'enivrement de leur père pour s'approcher de lui et être témoins de la nudité de leur père. Les autres, au contraire, respectent leur père jusque-là. C'est à l'intérieur de la paternité qu'on voit cette dualité. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire là-dessus pour essayer de comprendre ce que c'est que la nudité du père. J'exprime symboliquement la fragilité, la vulnérabilité, la précarité. On veut ne regarder que ses défauts, en premier lieu, on ne peut plus atteindre le Père. Alors que si on aime le Père, même s'il a des faiblesses, on garde le lien. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit là une séparation dans l'humanité. Et tout s'achève dans ce dernier moment de cette faute collective de l'humanité, un orgueil collectif, un orgueil personnel, Adam et Ève, un orgueil collectif, la tour de Babel. Cette descendance de Noé, qui est divisée, va s'unir dans un orgueil collectif. Et cet orgueil collectif, c'est de construire une tour, la tour de Babel, qui va atteindre le ciel, où l'homme va découvrir par là son autonomie parfaite. Il n'aura plus soin de Dieu, puisque cette tour atteint le ciel, et c'est lui-même qui l'a faite. Et donc, il aura par là son autonomie parfaite. Et tout ça se termine de fait par la division des hommes entre eux. Le fruit de cet orgueil, c'est que l'homme ne comprend plus l'homme. La division des langues symboliquement exprime comment l'homme ne comprend plus l'homme. Je crois que c'est très important ces quatre moments des fautes. Je crois qu'on peut dire c'est comme une petite maquette du gouvernement de Dieu sur l'humanité. Mais un gouvernement qui se fait par le point de vue de la faute, de la révolte par rapport à Dieu. Et ça nous aide à comprendre la tactique du démon. Comment le démon veut détourner l'homme de son alliance avec Dieu. Et comment il veut supprimer l'ordre que Dieu veut dans l'image de Dieu qui est mise dans le cœur de l'homme. Le dominium, l'intelligence et l'amour. Ce selon l'ordre de la sagesse de Dieu, tout pouvoir que l'homme possède, toute autorité que l'homme possède, doit lui permettre d'aller plus loin dans la connaissance. Et la connaissance intellectuelle doit être ordonnée à l'amour. Et la tactique du démon, c'est de faire, au contraire, que l'homme ne cherche plus à aimer. Par orgueil, il exalte son intelligence. Il se coupe de son frère. Par orgueil, il ne cherche qu'une seule chose, c'est à dominer. Et on voit comment le point de vue de l'orgueil conduit à mettre l'intelligence au service du pouvoir et de la puissance. Ces 11 premiers chapitres de la Genèse me semblent quelque chose de fondamental pour une théologie de l'économie divine, pour montrer la création, la liberté que Dieu laisse à l'homme, et comment l'homme, livré à lui-même, oublie progressivement ce lien avec Dieu et cherche à retourner au paradis terrestre. Il ne peut plus y retourner. Dieu a mis l'ange pour bien nous montrer qu'on ne peut pas retourner au paradis terrestre. Mais il y a une nostalgie profonde de l'homme pour retourner au paradis terrestre et pour y retourner par lui-même, malgré la défense de Dieu. Sans regarder la défense de Dieu, il veut y retourner lui-même. Il veut y retourner lui-même collectivement. Et je crois que le symbolisme de la tour de Babel, c'est justement ce retour de l'homme qui veut, par lui-même, atteindre le ciel et donc acquérir son autonomie parfaite en dehors de Dieu. Après ces 11 premiers chapitres de la Genèse, on entre dans
l'histoire. C'est un récit symbolique et vous ne l'avez pas dit parce que ça va être pas pour vous, mais pour...
C'est évident. Ce langage de l'écriture est symbolique, mais d'un symbolisme divin. C'est-à-dire, c'est pas un symbolisme purement poétique.
Oui, c'est un symbolisme divin. Expliquer, ça veut dire quelque chose de réel. Ça.
Quelque chose de réel et de fondamental dans le cœur de l'homme. C'est évident que c'est symbolique. Il ne faut surtout pas prendre ça d'une manière qui soit le comment. Le comment reste caché. Ce qu'on voit, c'est le geste créateur de Dieu. Ce qu'on voit, c'est l'homme qui est tenté, la tentation de l'homme. Et qu'on voit comment le démon s'introduit pour y mettre un désordre. C'est pas plus que ça, mais c'est fondamental. À partir alors d'Abraham, on voit Dieu.
Et là on entre dans l'histoire.
On entre dans l'histoire. Tandis qu'avant, c'est fondamental. J'allais presque dire, c'est une révélation métaphysique. C'est métaphysique, c'est radical, c'est toujours vrai ça. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est l'histoire de tout homme, et de, fondamentalement vu du côté du péché, pas vu du côté de l'amour et de la miséricorde. C'est très très curieux. C'est un aspect négatif, premier. L'aspect positif, ce sera au contraire l'Apocalypse. L'Apocalypse se termine dans la Jérusalem céleste, donc dans la grande victoire de l'amour. Tandis que, au contraire, c'est très nettement l'aspect négatif pour bien faire comprendre que l'homme, quand il pêche, c'est toujours la négation qui est première. Cette négation est cachée par l'exaltation de soi. Mais l'exaltation de soi, c'est cacher ce qu'il y a de négatif dans le péché. Et c'est une espèce de théologie du péché qui nous est donnée là au point de départ, qui est fondamentale pour moi.
Et en même temps, c'est à partir de ces premiers chapitres qu'on peut comprendre la recréation, c'est-à-dire qu'on peut comprendre tout ce que vous avez cité.
C'est à partir de là,
le mystère de la croix et de la rédemption.
Qu'on devrait reprendre le prologue. Quoi ? Le prologue de Saint Jean.
Non, c'est pour des gens qui sont pas...
Tout ce que vous allez expliquer.
Ah oui, tout ce que vous allez, d'accord. Parce qu'on a changé l'ordre, oui. Oui, que ça introduise un petit peu à ce qui viendra après, qui est la rédemption.
Je crois que ce prologue, pour moi, est fondamental. Donc, à la fois, on pourrait le mettre entre parenthèses, on le fait de temps en temps, sauf si je trouve ça pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'histoire. Vous voyez, c'est là où on voit la limite d'une théologie qui ne serait qu'une théologie de l'histoire. On laisserait tomber ce qui est en dehors de l'histoire, purement symbolique. Et après tout, les choses les plus profondes, Dieu les donne toujours par un mode symbolique. Parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est la métaphysique de Dieu, ça, sur l'homme, en quelque sorte, révélée. À partir de l'histoire, on verra Dieu qui va reprendre l'homme par la foi. Et il reprend le cœur des pères. Abraham, Isaac, Jacob. C'est les pères. C'est cette alliance d'amour gratuite vers une terre promise, vers une promesse. Cette promesse avait été annoncée du reste dès le point de départ d'une manière symbolique. Puisque après la première faute, ils sont chassés du paradis terrestre. Mais il y a tout de suite la promesse. Donc, au-delà de la négation, il y a l'aide de Dieu qui est promis. Mais c'est l'aide de Dieu qui est positif. L'homme laissé à lui-même aboutit à la tour de Babel. Mais il y a toujours la promesse. Et cette promesse, elle commence à se réaliser avec Abraham. Dieu reprend ce qu'il y a de plus secret dans l'homme. Son cœur de père, ce par où il est le plus profondément à l'image de Dieu. Et le peuple d'Israël a commencé par une alliance avec les pères pour bien faire comprendre que ce qu'il y a de plus profond dans la révélation, c'est le lien de l'homme dans la foi avec Dieu Père au sens très fort et très profond. Et ces trois alliances, Abraham, c'est le père par excellence, il est père et grand-père. Isaac, c'est le fils et le père. Et Jacob, c'est la source de toute fécondité. Les 12 tribus sont de lui. Il est le Benjamin, choisi par prédilection. D'une certaine manière, il n'a aucun droit à la bénédiction. Mais c'est parce que l'aîné s'est mis en dehors. Et que la mère, Rebecca, était là pour lui rappeler. Il y aurait là une théologie des pères qui serait très importante à voir. Parce qu'elle est comme une préfiguration du mystère de Dieu dans sa paternité. Et comment le Fils nous fait comprendre ce que c'est que le Père. Et comment l'Esprit Saint nous fait comprendre ce que c'est que le Père. Isaac et Jacob sont relatifs à Abraham, toujours. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est quand même très très fort ça. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'est le Dieu des pères. Parce que c'est le Dieu Père qui nous fait saisir ce lien avec ce qu'il y a de plus profond. L'alliance ensuite est avec Moïse. Moïse c'est le législateur. C'est pas proprement le Père, Moïse. Les enfants de Moïse, l'épouse de Moïse, c'est très caché. Hein. Ce qui apporte, c'est le législateur. C'est la sanctification de l'intelligence dans le législateur. Et cette sanctification de l'intelligence, elle ne va pas jusqu'au bout. Alors que lorsqu'il s'agit des pères, ils peuvent être ensevelis au même lieu. Parce que jusqu'au bout, il y a la fidélité. Tandis que, avec Moïse, il y a toute cette petite histoire très curieuse, l'épreuve. C'est une épreuve, c'est plus une tentation, c'est une épreuve. C'est Dieu qui éprouve Moïse. Et Moïse n'a pas été jusqu'au bout de la fidélité. Et il n'entrera pas dans la terre promise. Toute l'histoire de Meriba. Puis ensuite, on voit les juges. Là encore, on voit combien c'est difficile de sanctifier l'intelligence. Et lorsqu'il s'agit des rois, ça se termine très mal. Comme c'est difficile de sanctifier non seulement l'intelligence, mais l'autorité. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important à souligner au point de vue de la théologie. De l'économie divine. Dieu donne la loi pour éduquer. C'est le Dieu qui éduque par Moïse, par le Dieu envoie des prophètes qui sont comme des dons gratuits. C'est comme des annonces mystérieuses de l'action de l'Esprit Saint, du souffle de Dieu. Ils sont pris par l'Esprit de Dieu, du reste, ils sont tous sous l'Esprit de Dieu, tous les prophètes. Et il y aura constamment ces trois aspects qu'on verra. L'aspect de la loi avec les prêtres, le point de vue de la royauté et le point de vue des prophètes. Et Dieu conduit son peuple à travers cela, à travers des tas d'histoires multiples et diverses, mais qui toutes nous aident à comprendre le mystère de Dieu Père qui veut conduire son peuple pour le préparer au don de son Fils à travers la loi, à travers les rois et surtout à travers les prophètes. On peut dire de Osée au Cantique des Cantiques, on découvrira là ce qu'il y a de plus secret dans cette alliance. C'est cet amour de tendresse de Dieu pour son peuple. Il est l'époux. Il est le Père, il est l'époux. Mais c'est quelque chose qui demeure secret, qui demeure caché, qui demeure intime. On aura donc là, je dirais, la première dimension de la théologie biblique. Et tout va être repris par le Christ. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que Noé est une préfiguration. Et du reste, les pères de l'Église n'ont pas hésité de le dire. Tout est repris. Le nouvel Adam. Tout est repris par le Christ. Et c'est là où je peux faire un parallélisme pour mieux comprendre le prologue de Saint Jean avec les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et ce parallélisme est très important et très intéressant. Parce qu'on voit bien les moments successifs, le point de vue de la création, le point de vue des fautes. Mais tout s'achève dans une miséricorde ultime. Et cette miséricorde ultime, elle nous sera donnée au terme, à la fin, dans l'Apocalypse. Les noces de l'Église, de la Jérusalem céleste. Et c'est la Jérusalem. On ne dit pas l'Église, on dit la Jérusalem. Pour unir l'Ancien Testament au Nouveau. Et ça se termine par les noces de la Jérusalem céleste. Pour bien montrer cet amour de Dieu qui continue vis-à-vis de son peuple. Dieu a conduit Pierre à Rome. L'Église s'est développée à partir de Rome, à partir de notre petite Europe. Tellement mystérieux ce passage de Jérusalem à Rome. Et l'Apocalypse ne parle pas de Rome. C'est pas parce que Jean est en opposition vis-à-vis de Pierre. Non. L'Apocalypse parle de la Jérusalem céleste. Pour bien montrer l'unité ultime et dernière dans la gloire entre cette première alliance et cette seconde alliance. Et tout s'achève dans cette gloire, c'est-à-dire cette victoire de l'amour. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important pour nous, reprendre toute la théologie dans ses diverses dimensions. Théologie de l'économie divine dans la théologie biblique et la théologie de l'Église dans la lumière de Jésus, dans la lumière de l'Évangile, dans la lumière de Saint Paul, l'Église comme un grand vivant. Et pour bien réaliser cette théologie de l'économie divine, il est nécessaire d'avoir toujours cette théologie que Saint Thomas appelle la théologie scientifique, c'est-à-dire saisir profondément les liens entre l'homme et Dieu. Dans le mystère de la création. création, dans le mystère de la rédemption. C'est ça la théologie scientifique. C'est d'étudier directement le mystère de l'homme et le mystère de Dieu. Je crois qu'on pourrait dire que la théologie scientifique est à la théologie, à l'ensemble de la théologie, ce que la philosophie théorétique, dans son ultime moment, la philosophie première, est à la philosophie pratique. La philosophie pratique, elle se traduit pour nous dans cette théologie de l'économie divine. C'est-à-dire le devenir de l'humanité dans sa recherche. Puis, le don du Fils au-delà de la loi. Le don du Fils. Et la manière dont les hommes vont vivre de ce don. Le mystère de l'Église. Dans toutes les luttes. Dans tous les moments beaucoup plus difficiles où les conséquences du péché demeurent. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour bien comprendre cette théologie publique, cette théologie de l'Église, cette théologie de l'économie divine, il faut comprendre que lorsqu'Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre, ce symbolisme montre qu'il n'y a plus d'Éden, qu'il n'y a plus de paradis terrestre, que le bonheur de l'homme ne peut plus être sur cette terre. La première alliance tout à fait fondamentale et première de ce que les théologiens appellent la grâce de justice originelle disparaît. Et que l'homme sera lié dès sa naissance, puisqu'il est lié à Adam. Il sera lié au péché, d'une façon très mystérieuse. Ce qu'on appelle en théologie le péché originel, qui reste quelque chose de très obscur, de très mystérieux, de très difficile. On pourrait presque dire qu'aujourd'hui, pour les théologiens, c'est la pierre d'achoppement. Tellement c'est difficile d'essayer, dans une lumière de sagesse de Dieu et de théologie d'économie divine, faire comprendre cette volonté de Dieu, la conséquence du péché originel, c'est que l'homme est voué à la mort. Même s'il est racheté par le Christ. Même s'il est racheté par la sagesse de Dieu. Par la rédemption. Il y a la conséquence du péché qui reste. La mort. Avec la mort, la souffrance. L'angoisse. Les luttes internes. Le drame qu'il va porter en lui. Et en lui une corruptibilité. Et il y a une semence d'incorruptibilité. Il y a en lui une semence de gloire. Et en même temps, il est saisi par les concupiscences. Et ces trois concupiscences, il les porte en lui. La lutte n'est pas seulement externe, la lutte est interne. Les trois concupiscences. Et cependant, la grâce de Dieu est donnée. Parce que, au point de départ, relié à Adam, il porte les conséquences de la faute première. Ce déséquilibre fondamental qui se réalise à partir de l'orgueil, de cette faute d'orgueil initiale, première, d'Adam et Ève, où il y a une répercussion sur toute la descendance. Et c'est à cause de ce péché originel que Dieu, dans sa sagesse, va vouloir venir sauver les hommes. Ce salut promis dès le point de départ va être répété constamment à travers tous les prophètes. Et ce salut va se réaliser de cette manière si étonnante, si mystérieuse. Dieu envoie son Fils. Mystère d'incarnation. Il envoie son Fils pour qu'il soit l'un de nôtres, en de
nation, la fleur d'Israël, celle qui est au terme de toute la grande attente, d'être la mère du Fils du Très-Haut. Et cette alliance va être maternelle en Marie et sous l'action de la toute-puissance de Dieu et de l'amour de l'Esprit-Saint. En Marie, Vierge, le mystère de la formation du corps du Christ, le mystère de la maternité divine de Marie va se réaliser. Il faut que le mystère de l'incarnation soit enraciné dans l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a ce mystère de maternité divine, pour que Jésus soit le fils de la femme, pour que Jésus soit le fils de l'homme, pour que Jésus soit parfaitement l'un de nous, pour que Jésus assume toutes les étapes particulières de l'homme, du premier instant de la conception jusqu'à l'âge de sa mort. Tout est assumé. Et Jésus vient pour sauver l'homme, en premier lieu, de sa faute originelle, de cette faute de nature, qui est quelque chose qui nous dépasse tous. Ce lien fondamental et radical avec Adam et Ève. Jésus vient pour nous sauver de cela. Il porte sur lui toutes les conséquences du péché pour être notre Rédempteur. C'est dans la lumière de la croix, puisque c'est vraiment à la croix que Dieu veut que Jésus soit sauveur, pour nous montrer à la fois son amour et la gravité de la faute, pour que, de fait, la miséricorde de Dieu assume la justice dans ce qu'elle a de plus rigoureux et de plus fort. Et c'est la miséricorde qui embrasse la justice, faisant que la miséricorde permette à la justice de s'exercer à travers le Logos du Christ, mais que la miséricorde, elle, puisse montrer que l'amour est victorieux de toutes les conséquences du péché.
C'est dans cette lumière que nous pouvons saisir comment cette théologie de l'économie divine réclame une théologie dite scientifique qui nous fait toujours revenir au mystère de Dieu, au mystère de l'homme, aux relations de l'homme et de la grâce, pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, ce que saint Thomas fait d'une manière si étonnante. Et je crois que toute la théologie doit se terminer dans une théologie mystique. En dernier lieu, toute la théologie s'achève dans un regard de sagesse. Et pour le croyant, la sagesse, c'est que Dieu est amour. Tout doit être repris dans cette perspective, dans cette réalité de l'amour divin. En théologie scientifique, on essaie de comprendre l'intelligibilité du message de Dieu et de la révélation, de la tradition, de la parole de Dieu. En théologie de l'économie divine, on essaie de comprendre comment Dieu nous éduque et nous amène au mystère de Jésus. En théologie de l'Église, de ce vivant, de la tradition, on essaie de comprendre comment progressivement le bon pasteur nous fait découvrir les grands pâturages. En théologie mystique, on doit découvrir ce qu'il y a de plus mystérieux dans le mystère de la Très-Sainte Trinité. Cet amour fécond. Jésus nous transmet dans son, à travers son cœur, à travers tout son enseignement, à travers tous ses gestes. Il nous transmet cet amour et nous le communique à travers Marie et par elle. C'est donc à travers le mystère de Marie et dans le mystère de Marie que nous pouvons découvrir tout cet amour de Jésus. La théologie mystique essaie de préciser l'ordre de sagesse divine, l'ordre de la sagesse de Dieu dans l'amour et à travers l'amour. C'est l'ordo caritatis dont parle saint Thomas, mais qui est pris alors d'une façon plénière, pas seulement par rapport à la charité fraternelle, mais par rapport à toute ma vie. Ma vie doit être une vie d'amour si je suis enfant de Dieu, puisque Dieu est amour. Et comment tout doit être repris dans cette lumière ultime de l'amour, avec, à l'intérieur de l'amour, ces différentes demeures de Dieu. Je crois qu'il y a diverses façons de comprendre l'ordre de la théologie mystique. On peut structurer toute la théologie mystique à partir de la grande révélation de l'amour qui se fait à la croix, pour nous. Et comment, à partir de la croix, on peut saisir cette révélation de l'amour. Comment Marie nous y conduit. Comment l'Église nous y conduit au milieu des luttes. Et comment, en définitive, cette conversion constante que nous devons faire vers l'amour va nous plonger, va nous conduire vers le mystère même du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Mais je peux aussi prendre une théologie mystique à partir de l'évangile de saint Jean, qui est l'ultime révélation, et comprendre comment tout l'évangile de Jean, c'est l'évangile de l'amour, c'est l'évangile de l'Eucharistie, c'est l'évangile du cœur du Christ, c'est l'évangile de la relation intime du Fils à l'égard du Père.
Très bien.
Mystique ne peut se structurer autant qu'à l'intérieur de l'amour on peut structurer, sans détruire l'amour, puisque l'amour est un. Mais même à l'intérieur du mystère de Dieu, il y a les trois. Et donc, l'amour divin, dans ce qu'il a de plus substantiel et de plus un, implique ces liens du Père à l'égard du Fils à l'égard du Père, et du Père et du Fils à l'égard de la Très Sainte Trinité, à l'égard de l'Esprit Saint. Et comment cet amour se communique à travers le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Il y a donc bien une structure à l'intérieur de l'amour. Et pour saisir cette structure à l'intérieur de l'amour, il est nécessaire que la théologie mystique implique une théologie scientifique. Autrement, je risquerais toujours de retomber dans ce qu'on peut appeler une spiritualité. C'est-à-dire, au fond, comprendre que l'amour, c'est l'aspect subjectif dans lequel je vis cet amour, et non pas ce que j'aime, celui que j'aime. Au lieu de regarder la personne même de Dieu, qui est amour, je me regarderai aimant Dieu. La spiritualité me regarde aimant Dieu. La théologie mystique regarde Jésus, qui pour moi est le Fils bien-aimé qui m'est donné. Et à travers lui et en lui, j'aime le Père. C'est ce bien suprême et dernier, le Père, que je regarde, que j'essaie de contempler. La théologie scientifique qui me donne cet ordre de sagesse au-dessus de l'intelligibilité est nécessaire pour, à travers cet amour, me montrer l'aspect objectif et divin de cet amour, qui doit toujours rester présent. Autrement, très très vite, dire qu'une théologie mystique regarde l'amour, je retomberai dans une spiritualité qui peut-être est très belle et très grande, mais qui n'est plus et qui n'a plus ce caractère objectif de la théologie. Et la théologie mystique présuppose aussi la théologie biblique et la théologie de l'Église, puisque là, je vois en quelque sorte la préparation et la croissance de l'amour.
Transition.
Ah, vous
retourne.
Très bon.
Allez-y, Père.
Alors.
C'est bon.
Si on veut être joannique jusqu'au bout, il faut que cette doctrine que Saint Jean nous donne soit vécue et pleinement vécue. Et donc, que la charité fraternelle soit elle-même pleinement vécue. Alors je ne dirais pas qu'il s'agit maintenant de parler des grandes amitiés, mais qu'il s'agit des grandes rencontres profondes que Dieu permet dans notre vie. C'est pas tellement nous qui les cherchons. Je crois pas qu'il faut courir après tous les mystiques. Je dis en riant que j'aimerais faire une rencontre autour d'une tasse de thé de tous les grands mystiques, de tous les grands stigmatisés. On aurait le thé des stigmatisés. Je crois pas du tout que c'est ça que le bon Dieu veut. Il veut que nous continuions la tâche qu'il nous a donnée avec beaucoup de fidélité, en la reconnaissant, et que nous soyons toujours ouverts, accueillants, attentifs aux grandes rencontres que Dieu permet dans notre vie. Ça me semble tellement important. J'ai parlé du Père de Haut, qui a sûrement été pour moi une très grande rencontre. J'ai parlé du Père Thomas, c'est très différent. J'ai parlé du Père Chenu. C'est vrai, ce sont des rencontres au sens très grand, ou intellectuellement, ou spirituellement, ou les deux en même temps. Ce qui m'a toujours frappé pour le Père de Haut, ça a été une rencontre à la fois intellectuelle, puisque il m'a formé intellectuellement. Il m'a fait comprendre la place de l'art. Il m'a fait comprendre la grandeur de la métaphysique. Mais il y avait aussi chez lui le mystique silencieux. C'était la présence du Père de Haut qui vous mettait dans le silence et qui faisait comprendre que les grandes rencontres que nous faisons avec Dieu sont des rencontres silencieuses en quelque sorte. J'ai jamais éprouvé le besoin, après avoir vu le Père de Haut, de noter sur un petit carnet ce qu'il me disait. Je le gardais dans mon cœur comme la bonne terre, et j'essayais d'être la bonne terre, même si on oublie certaines choses au point d'importance. Au fond, on a vécu avec lui. On a vécu avec ces hommes de Dieu que Dieu mettait sur notre route. J'ai rencontré quelqu'un comme Ramirez, au point de vue intellectuel, pas tellement au point de vue spirituel, là, mais au point de vue intellectuel. J'ai fait des rencontres fraternelles, très étonnantes, avec des frères qui, je ne parle que de ceux qui sont déjà dans le ciel, quelqu'un comme le père de Ménas, un frère aîné, quelqu'un beaucoup plus mystérieux, des rencontres vraiment profondes, chrétiennes, du cœur. Et Dieu ponctue notre vie de cette manière-là. Et là, je ne parle que à l'intérieur de l'ordre, mais si on parlait dans sa vie apostolique, on verrait combien Dieu a fait ces rencontres étonnantes. Et parmi ces rencontres étonnantes, il y en a une très particulière. J'ai pas cherché à la voir. Je me défendais d'y aller. Mais c'est Marthe qui m'a demandé de venir. Tu devrais, j'ai compris après pourquoi. La première rencontre que j'ai faite avec Marthe, c'était Marthe qui m'avait demandé de venir en 47. Et Marthe, 46, et Marthe, sans me connaître, du moins officiellement, m'a parlé que du Père de Haut. Et j'ai trouvé ça très étonnant. Elle touchait dans mon cœur ce qu'il y avait au fond de plus vulnérable, d'une certaine manière, me parlant que du Père de Haut, et combien le Père de Haut était un
comment Marthe parlait du Père de Haut. Tout l'amour qu'elle avait pour lui, elle ne le connaissait pas. Elle avait lu certaines choses du Père de Haut, du moins, on lui avait lu certaines choses du Père de Haut, des fleuves d'eau vive, entre autres. Mais elle en parlait comme quelqu'un qui était tout proche d'elle. Et elle disait, tout ce qu'elle disait de lui était juste, c'était exact. Ça, ça m'a beaucoup frappé. Et puis quand je l'ai quittée, elle m'a demandé, comme elle demandait à tous les prêtres, une bénédiction. Et puis de prier tous les jours pour elle au sacrifice de la messe. Et j'ai senti à ce moment-là la réalité profonde du corps mystique. Dans la charité fraternelle, Marthe n'était pas ma fille spirituelle. J'ai jamais cherché à avoir Marthe comme fille spirituelle. Le père Finet était là, c'était très bien. Mais c'était une rencontre dans le cœur de Marie. Une rencontre dans la lumière du Père de Haut. Une rencontre, comme je crois, on le fera dans le ciel. Il n'y a qu'une seule paternité, la paternité du Père. Et c'est celle-là qui fait ces rencontres et qui augmente en nous le sens de la paternité unique. Je crois que c'est ça qui est si grand dans ces rencontres, parce qu'elles nous conduisent toujours à découvrir cette paternité du Père présente qui unit ses enfants. Puis après, j'ai été appelé par un coup de téléphone du père Finet quand j'étais à Fribourg pour venir prêcher la retraite des prêtres à Châteauneuf. Mais je me souviens encore, quand je suis venu à Châteauneuf, j'avais jamais subi de retraite à Châteauneuf, du moins suivi de retraite de Châteauneuf. Donc je ne savais pas très bien comment ça se passait, j'avais entendu beaucoup de choses, mais quand on entend, on ne sait jamais comment c'est la réalité. Et j'ai tout de suite demandé au père Finet qu'est-ce qu'il fallait faire. Le père Finet m'a dit, vous faites ce que vous voulez, tout à fait ce que vous voulez. Ils sont là, ils vous écouteront sûrement. Alors je dis, écoutez, moi, il y aurait quelque chose que j'aimerais beaucoup de prêcher. J'aimerais beaucoup de prêcher sur Saint Jean. L'ange, avec toute la liberté, va voir. On prêcherait sur Saint Jean, sur l'évangile de Jean. Le père Finet m'a dit, mais très très bien, allez-y, allez-y. Et j'ai commencé à prêcher sur Saint Jean. Et ce qui m'a touché le plus, c'est qu'à la fin de la retraite, pendant la retraite évidemment, j'ai vu Marthe, mais à la fin de la retraite, le père Finet, qui faisait toujours son petit discours pour le prédicateur, pour les retraitants, et puis parler de Marthe. Il a dit cette chose que j'ai reçue dans mon cœur d'une façon très particulière. Le père Finet a dit, quand j'ai dit à Marthe que le père Philippe allait prêcher aux prêtres en prenant l'évangile de Saint Jean, Marthe a simplement dit, enfin. Quand je l'avais vu, Marthe m'avait dit la joie que je prêchais sur le prologue et que je prêche sur Saint Jean. Et quand le père Finet a dit ça, j'ai compris combien Marthe était joannique dans le sens très fort. Elle était un petit enfant du Père, un petit enfant de la Vierge Marie, un petit enfant de Jésus crucifié, de Jésus immolé. Elle était le petit agneau de Jésus, dans le sens le plus fort. Et sa vie, c'était de tout offrir à Dieu en s'offrant. Et elle vous accueillait vraiment de cette manière-là. J'ai compris cette parenté foncière de Marthe avec le Père de Haut, avec la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et ça, j'ai compris de plus en plus combien Marthe voulait que les foyers vivent comme des petits carmels. Elle me l'a dit plus d'une fois. Ça doit être des petits carmels, les foyers. des lieux de silence, d'oraison, de prière et d'accueil dans un service très simple, fraternel. Et je me souviens de ce petit épisode qui était tellement significatif. Dans un foyer où je prêchais, le père de foyer m'avait dit aller voir telle religion, tel membre du foyer, je crois qu'elle dépasse sa place, elle devrait être au Carmel. Je crois qu'elle a une vocation de carmélite, beaucoup plus que du foyer. Alors je l'avais vue, j'avais dit ça. Alors elle m'a regardé, non, j'ai la vocation des foyers, pas du Carmel. Ça m'avait fait un peu mal. Et j'en avais parlé à Marthe. Et Marthe, avec sa vivacité, dit, si elle n'a pas la vocation du Carmel, elle n'a pas la vocation des foyers. Vous allez jusque-là. Et j'ai trouvé ça très beau. Combien Marthe voulait que les foyers prolongent tout le mystère de la petite Thérèse. Sa mission, c'était ça. Elle était liée à la petite Thérèse. Mais la petite Thérèse, dans ce qu'elle a de plus profond, la petite Thérèse, dans son mystère d'holocauste d'amour, dans son mystère de lien avec Jésus crucifié, dans son mystère de qu'elle était celle qui portait toute l'Église, la patronne des missions, parce que liée au mystère de la croix du Christ, liée au mystère de l'Holocauste du Christ, elle portait toute l'Église. L'Église jaillit de la blessure du cœur du Christ. Et j'ai tout de suite saisi combien Marthe était dans cette ligne profonde. Et il y avait le mystère de Marie aussi, qui était aussi tellement son mystère. Du reste, je crois que ça ne peut pas être lié à la croix sans être lié à Marie. Et là, c'était tout le grand courant de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, mystérieusement, jamais eu d'explication très précise, puisque je n'ai pas cherché du reste, parce que je ne faisais pas d'enquête quand j'étais à Châteauneuf. Je vivais ce mystère de Marthe qui était rayonnant et qui était merveilleux, parce qu'il nous obligeait d'aller toujours plus loin dans l'intériorité, dans le silence. Et j'ai vu combien les retraites des foyers se terminaient par la consécration de Saint Louis-Marie Grignon-de-Montfort, selon un style Châteauneuf particulier, très beau du reste, à la fois très populaire et en même temps profond. C'est vrai, les cantiques de Châteauneuf étaient un peu comme ça. Et il y avait quelque chose de spécial. Alors j'ai essayé de comprendre cela. Pour moi, ça ne me faisait aucune difficulté, puisque, de fait, la consécration de Saint-Louis-Marie-Grignon-de-Montfort